Ce soir, nous allons continuer dans ce parcours de l'évangile selon Matthieu. Et on va faire quelque chose d'assez particulier avec Matthieu chapitre 2, dans le sens qu'on va faire tout le chapitre ce soir. Vu que c'est un récit qui se suit, je crois que ça vaut la peine simplement de voir l'histoire dans son intégralité. Et donc, nous allons regarder Matthieu chapitre 2, lire le chapitre en entier, mais en regardant trois parties différentes de l'histoire, trois étapes différentes dans l'histoire qu'on appelle souvent la visite des mages qui viennent voir Jésus à Bethléem. Comme papa a mentionné la semaine passée, hein, c'est un peu des prédications de Noël, hein, mais bien sûr, l'évangile et l'histoire de la naissance de Jésus, c'est pas juste pour le 24 ou le 25 décembre, mais chaque semaine, toute l'année, nous pouvons nous rappeler non seulement du mystère de l'incarnation, mais de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Et donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord lire le récit dans Matthieu chapitre 2 en trois sections, et je vais juste parler de quelques questions qui sont souvent posées au sujet du texte, quelques informations complémentaires, et puis à la fin, en regardant ces parties ensemble, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, sur Jésus, et puis sur les hommes. Commençons donc avec les versets 1 à 6 dans Matthieu chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée. » Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Nous lisons le début de cette histoire et tout plein de personnages apparaissent qu'on ne connaît pas vraiment très bien si on se contente juste de lire l'Ancien Testament. Et une des questions qu'on peut poser, c'est qui sont ces mages. Et peut-être le folklore nous dira, bon, ces mages, c'est les trois rois, Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais si nous lisons le texte, et on verra dans la suite du chapitre, que nous n'avons vraiment pas beaucoup d'informations au sujet de ces mages qui viennent d'Orient. Les théologiens, les experts proposent tout plein de lieux différents. Donc l'Orient, c'est assez grand. Peut-être ce sont des Parthes qui viennent, donc le royaume qui était directement à l'est des territoires romains. Peut-être que c'était des Perses ou des Babyloniens ou peut-être même des Mèdes. Nous ne savons pas combien ils étaient. Traditionnellement, on dit qu'ils étaient trois parce qu'il y a trois dons qui sont donnés. Mais ici, nous ne savons pas simplement qu'il s'agit d'une procession de mages qui viennent depuis l'Orient. Et je suis désolé de vous décevoir, surtout avec la fête des rois qui vient, mais rien dans le texte nous dit que ce sont des rois qui sont des mages. Simplement que ce sont des mages. Vous pouvez quand même mettre la couronne si vous trouvez la fève. Je n'ai rien contre, mais sachez que cela ne vient pas de l'évangile de Matthieu ou d'autre part dans la Bible. C'est quelque chose qui est venu plus tard. Par contre, sans doute, il s'agissait de gens qui étaient des nobles, des gens assez riches. On le voit parce qu'ils ont pu faire un voyage spécial pour venir jusqu'en Judée. On le voit parce qu'ils ont des dons royaux. Et par la suite aussi, n'est-ce pas, ils ont la possibilité de s'entretenir avec le roi Hérode lui-même. Donc ce sont des gens importants. Et probablement donc ce terme, les mages ici, ça revient aux mêmes idées qu'on voit dans le livre de Daniel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Daniel et ses amis sont amenés d'abord en Babylone et plus tard dans l'Empire perse. Et ils travaillent dans la cour de l'Empire. Et ils servent comme des sages, mais aussi comme des astrologues et comme des gens qui doivent interpréter les signes et les choses qui viennent. Et Daniel et ses amis sont différents de tous les autres, car Dieu les bénit, et ils sont vraiment capables d'interpréter les rêves et les signes que Dieu donne. Mais les Perses, les Babyloniens, les Mèdes, c'était des gens qui étaient connus à l'époque pour avoir une grande « science » entre guillemets de l'astrologie. Et c'était des gens qui connaissaient le mouvement des étoiles, qui connaissaient le mouvement des planètes, et qui s'en servaient pour essayer de prédire les grands événements qui allaient se produire, de parler de l'avenir et du sort des personnes. Et c'est intéressant parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit la magie dans toutes ses formes. Il n'y a pas cette notion de magie blanche et de magie noire, par exemple. Et aussi la divination ou l'astrologie. On voit dans Deutéronome chapitre 18, le verset 10, ceci. qu'on ne trouve chez toi, en Israël, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. Et si toutes ces choses ne s'appliquent pas à ce qu'on connaît de l'astrologie perse, mède et babylonienne, cette notion de divination et de tirer des présages, ça correspond pas mal. Sans en aller dans tous les détails, n'est-ce pas curieux que Dieu a envoyé une étoile pour que ces astrologues puissent interpréter par leur astrologie le fait que le Messie soit venu? Dieu peut nous surprendre, parfois, dans sa manière de communiquer et d'appeler les gens. Et ici, il se sert de quelque chose qu'il avait interdit pour Israël pour appeler des peuples étrangers jusqu'à son Messie. Pour l'application, je ne crois pas que le message ici, c'est « il faut se servir de son horoscope dans le journal » parce qu'à partir de Jésus, maintenant c'est bon. L'astrologie ou les horoscopes, c'est des choses qu'on va suivre. D'ailleurs, Dieu ici n'est pas en train de confirmer le paganisme de ces gens, mais de les appeler à venir à Jésus pour le connaître. Et je crois qu'il y a une distinction importante ici. Mais pourtant, il ne faut pas le rater, que le message de l'Évangile, comme on a déjà vu dans la généalogie de Christ, n'est pas juste pour Israël, mais aussi pour les peuples qui étaient exclus de l'Alliance jusqu'à présent. Que Jésus va attirer des hommes de toutes les nations à lui, et pas simplement les Israélites, des hommes et des femmes de toutes les nations. Et donc nous avons ces mages très mystérieux qui vont venir, qui vont partir, et on ne les verra plus dans l'histoire. Mais quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas, d'être venu pour rencontrer le Christ. Mais nous avons un deuxième personnage qui est ce Hérode. Et il faut toujours faire attention dans les évangiles parce qu'il y a beaucoup d'Hérodes différents, et parfois on ne les distingue pas. Il y avait plusieurs descendants de ce roi Hérode-ci qui ont porté le même nom. Mais ici, il s'agit de Hérode le Grand. Quelqu'un qui était très connu dans l'histoire romaine, dans l'histoire juive, et qui pourtant ne joue pas un très très grand rôle dans l'Évangile. C'est ici la seule histoire où nous le voyons agir. Hérode était le roi des Juifs. Il régnait sur la Judée, il régnait sur la Samarie, la Galilée et de nombreuses régions autour. Mais malgré le fait qu'il était le roi des Juifs, il n'était pas israélite. Il était en fait ce que le Nouveau Testament appelle les Iduméens, qui correspond aux Édomites de l'Ancien Testament. Donc il n'était pas descendant de Jacob, il était descendant d'Ésaü. Alors c'est assez compliqué pour voir comment il est devenu roi, mais d'une manière très simple, il y avait des rois juifs quelques décennies et siècles avant qui avaient conquis finalement les Édomites et les avaient convertis de force au judaïsme. Ils étaient obligés de tous se circoncire. Et c'était le cas pour le grand-père, l'arrière-grand-père d'Hérode aussi. Mais au fil du temps, ces Iduméens ont réussi, après avoir été convertis de force au judaïsme, à devenir les chefs du peuple, surtout en s'alliant avec les Romains. Et donc Hérode, qui n'était pas israélite, qui n'était pas descendant de Jacob ou descendant de David, est devenu le roi d'Israël, le roi des Juifs. Et il était roi par ordre de Rome. Il n'avait pas été acclamé roi par le peuple. D'ailleurs, après avoir été nommé roi, il a fait une guerre de 3 ans, contre les Israélites, contre les Juifs, pour les soumettre, avant de finalement conquérir Jérusalem. Et donc, il était un roi, mais un roi qui n'était pas du tout apprécié par le peuple qui voulait être fidèle à Dieu. Il est connu dans l'histoire profane comme un très bon politicien, peut-être un des meilleurs politiciens de son époque, comme un grand guerrier, plein de courage, comme un grand bâtisseur qui a fait construire des villes entières, des monuments formidable, y compris la reconstruction du temple qui tenait encore au temps de Jésus et des apôtres, mais aussi comme quelqu'un qui était haï par le peuple juif, quelqu'un qui est devenu de plus en plus paranoïaque vers la fin de sa vie et un meurtrier sanglant aussi. Vers la fin de sa vie et l'histoire de la naissance de Jésus, comme on voit, c'est juste avant la mort d'Hérode, on le verra, il devient presque fou à cause de ses soupçons parce qu'il avait toujours peur que des usurpateurs allaient prendre sa place. Et il a fait assassiner ou mettre à mort sa femme, qui était descendante royale juive, son beau-frère, qu'il a fait noyer. Il a fait exécuter 3 de ses fils, de nombreux chefs du peuple juif. Et nous verrons aussi d'autres meurtres dans cette histoire ici. Mais c'était un homme très violent et très cruel, qui était prêt à tout pour défendre son pouvoir. Juste avant de mourir, l'historien juif Flavius Joseph parle de cela, il savait que le peuple de Jérusalem serait content qu'il soit mort. Et donc il a dit « Prenez tous les nobles de la ville, mettez-les dans un endroit et quand je meurs, tuez-les tous. Comme ça, au moins, il n'y aura pas le deuil pour moi, mais il y aura le deuil pour ces nobles qui sont appréciés par le peuple. Bon, une fois qu'il est mort, les soldats ont laissé partir les nobles parce qu'on ne doit pas servir un roi qui est mort, mais juste pour vous faire une idée de la cruauté de cet homme. Bon, Hérode rencontre ses mages et disent « Où est le roi des Juifs ?» Et on peut admirer la naïveté des mages, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas Hérode qui a un fils qui vient de naître, Hérode qui n'est pas le roi légitime, qui n'est pas le descendant de David. Ces gens viennent et disent « Bon, où est le roi ?» Et Hérode, immédiatement, comme il est connu pour l'avoir fait, il cherche à trouver ce prétendant au trône. Et il va voir les chefs du peuple et les scribes et il lui parle d'une prophétie qu'on trouve dans Michée chapitre 5, les versets 1 et 2. Et ce qui est fascinant, c'est que la naissance de Jésus était prédite à Bethléem, comme nous avons vu. Je vais relire le verset 1 de Michée chapitre 5 avec le verset 2 aussi. Nous lisons « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi, en parlant de Dieu ici, il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. » Et ici, je crois que Matthieu sait que ses auteurs connaissent bien l'Ancien Testament, il n'a pas besoin de citer tout le passage ici, mais celle qui vient d'enfanter, bon, c'est Marie, et celui qui est né, c'est Jésus, le fils de David. Bethléem, c'était la ville natale de David. C'était le village des rois d'Israël. Et donc, Jésus naît dans l'endroit clé. Et n'est-ce pas extraordinaire que les chefs d'Israël savent où le Messie doit naître? Que Hérode est capable de s'informer pour savoir où il sera? Et nous avons une confirmation ici de la part des ennemis de Jésus qu'il est vraiment le roi légitime car il est né dans la ville promise, descendant de David. Le complot, maintenant, d'Hérode va commencer. Au verset 7 à 15, nous continuons. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Bethléem n'est pas très loin de Jérusalem. J'y suis jamais allé personnellement, mais sur une carte, c'est environ 10 km de la ville de Jérusalem. Donc ce n'est pas un très long voyage à faire, même s'il n'y avait pas de voiture à l'époque. On est à bien moins d'une journée de marche ici, de la ville de Jérusalem. Et donc les mages vont suivre l'étoile jusqu'à la ville, au village plutôt, de Bethléem. Et c'est l'étoile qui s'arrête au-dessus du lieu où se trouve Jésus. Et à travers les siècles, même presque depuis le début, on a toujours cherché à comprendre dans quelle était cette étoile que les mages ont vue. Certains ont cherché donc des explications naturelles. S'agissait-il d'une comète qui est passée, d'un supernova qui s'est déroulé, je crois, dans l'an 7 avant Jésus-Christ? Est-ce qu'il s'agissait de deux planètes qui se sont alignées pour être plus brillantes? Beaucoup de chrétiens ont cherché à identifier le phénomène exact. Mais je crois qu'il y a un danger à essayer de donner une explication trop matérialiste ou scientifique à ce phénomène. Parce que le texte nous dit que c'est quelque chose de plus que cela, de quelque chose de miraculeux, n'est-ce pas? Car l'étoile va s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvent Jésus et ses parents. Et je ne sais pas la mécanique exacte de ce qui s'est passé pour cela, mais c'était suffisamment précis pour identifier une maison. Donc il y a quelque chose de miraculeux qui se passe ici. Même si Dieu peut tout à fait, et c'est possible qu'il se soit servi d'une comète ou d'un supernova ou autre chose, il y a quelque chose de plus ici. Que Dieu est vraiment en train d'intervenir d'une manière extraordinaire et inattendue, et plus que naturel dans le monde. Certains ont vu dans cette description d'images qui sont en train de suivre la lumière de l'astre jusqu'à la présence de Jésus, un écho d'Israël dans le désert. Vous vous souvenez, après l'Exode, Israël est en train de suivre la colonne de feu pour suivre la volonté de Dieu. Bon, ici, ce sont les païens qui sont en train de suivre aussi, pas la personne de Dieu, mais le signe de Dieu. Et les cadeaux qu'ils donnent, donc, c'est l'or, la myrrhe et l'encens. Le texte ne va pas en détail sur le sens de ces cadeaux, mais une des choses qu'on peut dire, ce sont des cadeaux qui ont énormément de valeur. Et plus tard, Marie et Joseph et l'enfant Jésus seront des réfugiés en Égypte. Et je crois ici, une des choses que nous devons voir, c'est que Dieu est en train de pourvoir à la survie de la famille de Jésus. Et ce sera ce qui est nécessaire pour eux en tant que réfugiés de vivre. Mais c'est possible aussi de creuser un peu plus le sens de ces cadeaux. C'est vrai que l'or, c'était un cadeau financier, mais souvent associé au roi, n'est-ce pas? Un cadeau royal. L'encens, c'était un cadeau qu'on offrait à Dieu dans l'Ancien Testament. On ne brûlait pas l'encens pour des hommes, même c'était l'idolâtrie de le faire, mais d'offrir de l'encens pour Dieu, c'était un sacrifice agréable. Et la myrrhe, c'était un produit qui était utilisé, une gomme aromatique, utilisée pour soigner les blessures ou même pour embaumer les corps. Et donc, faites-en ce que vous voulez, mais certains ont vu ici une triple affirmation au sujet de l'identité de Jésus. Et peut-être ce n'est pas par hasard que Matthieu mentionne cela. En Jésus, nous avons le roi choisi par Dieu, le roi fils de David. En Jésus, nous avons Dieu fait homme aussi. Il est engendré de Dieu lui-même. Et l'encens serait un signe de cela. Et Jésus est non seulement roi, il est non seulement Dieu fait homme, mais il est le sacrifice parfait de Dieu. Et sa souffrance et sa mort sont aussi préfigurées par le sacrifice. Et je crois que c'est tout à fait possible de voir dans ce cadeau, et peut-être qu'il y en avait plus, mais Matthieu veut qu'on voit cela pour penser à qui est Jésus et quel est son avenir. La citation peut nous surprendre au verset 15, où il dit que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Il s'agit d'une citation d'Osée chapitre 11, le verset 1. Mais quand on va lire le passage, voici ce que dit le texte. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et vous voyez un peu la difficulté qu'il y a là, n'est-ce pas? Si Michée, c'est facile, il dit « Le Messie va naître à Bethléem », et effectivement, le Messie naît à Bethléem, il n'y a aucun souci. Ici, Osée n'est pas en train de prédire l'avenir. C'est Dieu en train de parler à travers Osée du passé. Il dit « J'ai appelé Israël hors d'Égypte », hein, c'est ça le sujet, et il appelle Israël son fils. Donc, dans quel sens, ici, est-ce que Jésus accomplit ce qui a été dit par le prophète? Je ne crois pas ici que Matthieu est en train d'essayer de nous jouer un tour, de prendre des textes qui ne parlent pas du tout de Jésus et de dire « Ouais, bon, ça parle du Messie », d'une manière arbitraire. Osée chapitre 11, le verset 1, ne parle pas du Messie dans son contexte original. C'est un passage qui parle d'Israël. Mais je crois que ce que Matthieu veut qu'on comprenne, inspiré par le Saint-Esprit, c'est que Jésus est en train de s'identifier et de revivre, les théologiens disent qu'il est en train de récapituler la vie d'Israël. Le peuple d'Israël, Dieu l'a appelé son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait pour sauver la vie de son peuple, de son fils? Bon, il l'a envoyé en Égypte lorsqu'il y a eu la famine, et puis il l'a fait sortir d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Et n'est-ce pas extraordinaire que Jésus, de même, est envoyé par Dieu en Égypte pour avoir la vie sauve et est rappelé de là? Dans les chapitres qui suivent, nous verrons que Jésus va traverser les eaux du baptême pour aller dans le désert pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il sera mis à l'épreuve. D'une manière similaire, Israël, dans l'Ancien Testament, a traversé les eaux de la mer Rouge pour passer 40 ans dans le désert où le peuple sera aussi mis à l'épreuve. Et sans cesse, dans l'évangile, nous voyons, dans l'évangile de Matthieu, nous voyons comment Jésus est comparé favorablement à l'histoire d'Israël. Que Jésus vit la vie d'Israël dans l'Ancien Testament, mais que là où Israël s'est planté, là où Israël a échoué et s'est rebellé, Jésus se soumet à Dieu et accomplit la volonté du Père. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Quand Jésus vient, il vient non seulement comme fils de Dieu, mais il vient comme le vrai Israël, le vrai peuple de Dieu qui accomplit pleinement la volonté de Dieu. Je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut prendre ce texte et plusieurs autres aussi, où nous voyons des passages qui, dans l'Ancien Testament, sont clairement appliqués à Israël mais qui sont appliquées maintenant à Jésus. Parce que Jésus vient et vit en tant que l'Israël idéal, comme il est le Adam idéal, l'être humain idéal. Il accomplit le plan de Dieu. Bon, la fin de l'histoire est tragique, n'est-ce pas? Parce que nous lisons au verset 16 à 23, « Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. » Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé le Nazoréen. Le massacre des innocents, comme on l'appelle aussi, c'est donc Hérode qui se rend compte que les mages ont compris qu'ils voulaient tuer Jésus. Et donc il allait faire une attaque chirurgicale, mais maintenant il fait une destruction totale. Il semblerait qu'à ce moment-là, donc c'est pas Jésus dans la mangeoire, d'accord ? Il se trouve déjà dans une maison, il a entre 0 et puis 2 ans, basé sur ce qu'on sait des mages. Donc c'est un certain temps après la visite des bergers, par exemple. Mais il décide, bon, on va tuer tous les garçons qui ont cet âge, tous les enfants qui ont cet âge dans la région pour s'assurer d'éliminer le prétendant Messie. Et si l'ange n'avait pas prévenu Joseph pour qu'il parte la nuit même, Jésus aurait été tué aussi. Certains qui ont un regard assez critique sur le Nouveau Testament disent « Ceci prouve que ce texte est une invention de Matthieu, parce que nous ne trouvons chez aucun des historiens romains ou juifs de l'époque la mention de ce massacre des enfants. » Ce qu'il faut mentionner à ce sujet quand même, c'est que la région de Bethléem, d'accord, c'est pas Lausanne. Ce n'est pas une grande métropole. Les experts, bon, qui connaissent bien mieux que moi, estiment que probablement on parle d'une vingtaine ou un peu plus d'enfants de cet âge-là. On n'est pas en train de parler de milliers d'enfants qui se font tuer, même si c'est quelque chose qui est horrible. Juste parce qu'un historien romain ou juif ne mentionne pas un événement, ne veut pas dire que cet événement ne s'est pas passé. Et ici, il semblerait que ce soit bon, des meurtres terribles, mais rien d'extraordinaire comparé à certaines des horreurs que Hérode a fait commettre. Et en tout cas, le caractère, ceci correspond tout à fait au caractère d'Hérode. Je crois qu'il faut faire attention de dire, juste parce qu'on n'a pas des preuves externes à la Bible, à chaque événement, ça veut dire que ça ne s'est pas passé. Je crois que la Bible est aussi une source historique fiable, basée sur tout ce que nous voyons. Donc si Joseph ne mentionne pas un événement, ça ne veut pas dire que cet événement ne s'est jamais produit. La même chose pour les autres historiens romains. Et ceci correspond tout à fait au caractère d'Hérode, surtout en fin de vie. Nous pouvons peut-être poser une question plus importante pour nous qui croyons, et c'est où est Dieu dans cette situation ? Ce texte, je le lis très différemment maintenant que j'ai des enfants comparé à avant. C'est vrai que Dieu sauve la vie de Jésus, mais qu'en est-il des autres parents, des autres enfants ? Ce que nous voyons ici, c'est quelque chose que nous voyons toujours dans le monde jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est que Dieu continue à permettre, même si nous croyons qu'il règne, et même s'il règne, il continue à permettre des atrocités et le mal. La promesse de Dieu, c'est qu'un jour il fera cesser ces choses, qu'un jour il rendra justice. Mais nous devons quand même nous rendre compte que nous vivons dans un monde qui est déchu et qui est plein de mal, et que même l'évangile et la naissance de Christ n'épargnent pas les gens de l'injustice et de la souffrance. Mais je crois que peut-être une chose que j'aimerais dire au sujet de ce passage, je ne sais pas comment ceux qui croient que les enfants naissent condamnés peuvent aborder ce passage. Ceux qui croient que Jésus voit tous les nouveau-nés, tous les bébés, comme des pécheurs condamnés pour l'enfer, ceux qui font de ce passage ici, où nous n'avons pas le massacre des innocents, mais Dieu qui est en train d'envoyer des bébés qui n'ont jamais eu l'occasion de croire ou d'être fidèles en enfer. Et de même, je crois qu'il faut faire attention, même si nous croyons à la souveraineté de Dieu, à l'idée que chaque événement, chaque acte, y compris le péché qui se passe s'est passé parce que Dieu l'a ordonné. Que Dieu a dit, bon, il faut que tous ces nouveau-nés soient tués afin que la prophétie de Jérémie 31,16 soit accomplie. Il y a des gens, et vous trouverez ça dans certains livres, même de théologie ou des commentaires, qui disent, chaque événement qui se produit, chaque mouvement d'un atome se produit parce que Dieu l'a déclaré, ça va être ainsi avant la création du monde. Des gens qui disent, bon, les bébés sont des pécheurs condamnés aux yeux de Dieu. Si nous avons cette attitude, je ne sais pas ce qu'on fait de ce passage-là. De dire, bon, voilà, Dieu, il dit, je vais condamner et détruire tous ces innocents avec joie. J'ai de la peine avec le fait que Dieu ait permis cela. Mais je sais que Dieu est contre ce péché-là et qu'il n'est pas celui qui l'a voulu ou qui l'a fait. Et que ses enfants sont auprès de Dieu et seront là à la résurrection et ne sont pas rejetés loin de lui. Et qu'il y a une espérance au-delà de cela. Je vais juste mentionner une chose. Jésus n'est pas né en l'an 1. Et la raison que nous savons cela, c'est parce qu'on sait que Hérode est mort dans l'an 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus est né, en tout cas, en 5 avant Jésus-Christ. Et d'habitude, on place sa naissance en moins 7 à moins 5, plus ou moins là. C'est un théologien du 6e siècle après Jésus-Christ qui a calculé l'an 1 de notre ère. Il a fait pas mal, je trouve, moins de 10 ans d'erreur, on peut lui permettre cela. Mais si jamais, si quelqu'un dit, vous savez, Jésus est né avant Jésus-Christ, d'accord, ce n'est pas une attaque contre la Bible. Vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis là-dessus. C'est simplement le théologien qui a fait le calcul, s'est un peu trompé. Mais Jésus est né donc un peu avant ce que nous datons comme l'an 1 de notre ère. Et c'est ce passage qui nous permet de savoir cela. Bon, qu'est-ce que ce passage, juste pour terminer, nous apprend sur Dieu? Dans cette histoire de la visite des mages, nous voyons premièrement que Dieu est en train d'appeler le monde entier en Jésus-Christ. C'est un Dieu qui aime, nous avons un Dieu et Père qui aime, bien sûr, Israël, son peuple élu, mais qui aime même les Babyloniens, et les Perses, et les Mèdes, et les autres peuples, et qui les appelle à lui. Et il ne les aime pas juste d'une manière théorique, mais d'une manière pratique. Il va les appeler à lui par l'étoile, par leurs propres moyens, afin qu'ils puissent venir et adorer le Seigneur. Et dans l'adoration de Jésus, nous avons une préfiguration et une préparation de ce qui va se passer après la résurrection. Tous les peuples de toutes les nations vont venir adorer Jésus. Mais nous voyons aussi que Dieu est celui qui dirige les événements pour accomplir son dessein. Dieu parle dans ce passage par les prophètes. Il parle par des songes, il parle par un ange qu'il a envoyé, il parle par les signes comme l'étoile. Luc nous rappelle aussi qu'il agit par la providence avec les impôts et le fait que la famille de Jésus doive descendre à Bethléem. Mais Dieu est à l'œuvre et c'est lui qui est maître des circonstances. Ce n'est pas Rome, ce n'est pas Hérode, ce n'est pas toutes ces autres choses, c'est Dieu lui-même qui gère l'histoire. Et nous croyons dans un Dieu qui est présent dans le monde et qui est à l'œuvre et qui est souverain, pas un Dieu qui s'est éloigné ou qui nous a laissés tout seuls. Et la naissance de Jésus, c'est un rappel. Et qu'est-ce que nous apprenons sur Jésus, qui vraiment n'est pas un grand acteur dans ce passage, n'est-ce pas? Il est presque uniquement appelé même le petit enfant qu'on porte d'un endroit à un autre. Nous voyons en Jésus le roi voulu et choisi par Dieu. Et nous avons en fait deux rois ici qui s'affrontent, n'est-ce pas? Le roi Hérode contre le roi Jésus. Et Jésus est l'antithèse d'Hérode. Jésus est le roi légitime. Hérode est un roi illégitime. Jésus est le descendant de David et de Jacob. Hérode est le descendant d'Ésaü. Jésus est loin le Messie de Dieu. Hérode est loin de Rome. Jésus est humble et doux. Et Hérode est mégalomane, meurtrier et cruel. Et le règne d'Hérode a pour fruit les morts et la souffrance de son peuple. Jésus est un petit enfant, et plus tard il accueillera les petits-enfants. Mais Hérode massacre les petits-enfants. Et la question pour nous aujourd'hui, hein, on n'a pas Hérode ici, il est déjà mort depuis longtemps. Pour les lecteurs de l'époque, pour les premiers disciples et pour nous, c'est est-ce que nous suivons le vrai roi, le bon roi? Après Hérode, Israël aura toujours d'autres prétendants au trône. Ce sera les descendants d'Hérode, comme Archélaos et d'autres. Il y aura les faux messies qui vont mener le peuple dans des rébellions incessantes jusqu'à la destruction de tout le pays. Il y a les pharisiens qui oppressent le peuple par leurs traditions et par leurs règles. Il y a les sadducéens et les souverains sacrificateurs qui sont des politiciens corrompus, qui ne se soucient pas vraiment des choses de Dieu. Et sans arrêt, on voit tous ces mauvais chefs. Et face à eux, Jésus, le roi choisi par Dieu. Et il y a toujours cette décision que les disciples, que les Israélites doivent prendre. Qui allons nous suivre? Et c'est la même chose pour nous. Est-ce que nous allons suivre Christ ou est-ce que nous mettrons notre confiance dans les pouvoirs politiques de ce monde? Est-ce que nous mettrons notre confiance dans l'argent, dans l'économie, dans le respect de notre société? Ou est-ce que nous allons faire confiance dans le règne de Christ? Et puis finalement, juste pour terminer, qu'apprenons-nous sur les hommes? Dans cette histoire, nous voyons plus que juste le caractère de Jésus, nous voyons la réaction des hommes à la venue de Jésus. Hérode entend que le Messie est né et il est rempli d'une colère extrême. Verset 16. Les mages entendent que le roi des Juifs est né et ils sont remplis d'une joie extrême et ils l'adorent. Les scribes et les chefs, ils entendent que des gens sont venus voir le roi des Juifs. Ils savent où se trouverait ce roi. Et que font-ils? Bon, rien, n'est-ce pas? Ils ne font rien pour Jésus, ils ne feront rien contre Jésus. Ils sont indifférents. Et quel sera l'accueil des gens à Jésus? Ça, c'est la question. Est-ce que ce sera la colère? Est-ce que ce sera la haine, l'indifférence ou la joie et l'adoration? Et n'est-ce pas surprenant que c'est les mages païens qui ont fait le bon choix? Bon, bien sûr, il y a Joseph, il y a Marie, il y en a d'autres aussi, hein, ce n'est pas les seuls. Mais Dieu nous donne comme exemple les gens de foi inattendus, mais qui viennent et qui accueillent Jésus. Depuis cette époque et jusqu'à aujourd'hui, l'Évangile nous invite à nous examiner nous-mêmes en nous posant la question, comment est-ce que nous accueillons Jésus? Est-ce avec foi, avec joie et avec adoration, ou est-ce avec indifférence? L'appel pour nous, à travers les pages de l'Évangile et l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est cette joie et une adoration sincère.